Le journal, Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Le confinement, saison 3, face à la menace d'une flambée de l'épidémie à cause des souches variantes du virus. Deux ministres l'évoquent ce matin. Si le couvre-feu ne fait pas baisser les contaminations, des mesures supplémentaires seront prises. Et cela s'appelle le confinement, explique Olivier Véran. Jean-Michel Blanquer, de son côté, souhaite que les écoles restent ouvertes en cas de confinement. Depuis ce matin, la France renforce ses contrôles aux frontières. Mathilde Dehimy, dans un instant. Il y a un an, jour pour jour, l'épidémie arrivait en France. Les deux premiers malades étaient hospitalisés à Bordeaux et à Paris. Invité de ce journal, le professeur Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris, qui a pris en charge le premier cas de coronavirus officiellement déclaré en France et en Europe. À l'étranger, au Portugal, élection présidentielle dans un pays durement frappé par le variant anglais et reconfiné. Trois candidats s'affrontent. Le président sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, est favori. Dans ce journal également, les manifestations réprimées hier en Russie, la France s'inquiète d'une dérive autoritaire du pouvoir russe et les associations de protection de l'enfance reçues à partir de demain au ministère de la Justice pour un nouvel élan dans la lutte contre l'inceste. Le temps, passage nuageux au nord, nuages secs dans l'est, attention à la neige en Normandie et dans la région Centre-Val de Loire. Les conditions de circulation sont difficiles à la mi-journée. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
L'Europe et la France renforcent donc leur contrôle aux frontières depuis ce matin. Pour venir en France, les voyageurs européens doivent présenter un test PCR négatif. Les ressortissants des pays hors Union européenne devaient déjà, depuis lundi dernier, présenter un test négatif assorti d'une quarantaine. Depuis ce matin, donc, la mesure concerne aussi les Européens qui arrivent par avion ou par bateau. Quelle organisation a été mise en place dans les aéroports? On retrouve à Roissy Mathilde Dehimy. Bonjour Mathilde.
Bonjour Frédéric.
Alors comment s'effectuent les contrôles ?
Les contrôles se font avant le passage devant la police des frontières, au terminal 2A. À l'arrivée, on croise des passagers qui ont dû courir hier, avant-hier, pour faire en urgence un test dans le pays où se trouvaient avant de rentrer. Et il y a aussi les habitués prévoyants, comme Marie-Eugénie, qui débarque d'Athènes.
J'ai voyagé avec une compagnie aérienne qui demande depuis longtemps de faire des tests PCR. Il y avait un tout petit peu de queue, mais oui, on est passé assez rapidement. On a fait un contrôle de passeport et ensuite une vérification des tests négatifs.
Mais d'autres ont eu la désagréable surprise de devoir passer un test antigénique ici. Johan et Anaïs arrivent de Finlande, d'Helsinki, levés depuis 4h30 ce matin, 3 heures de vol et un coton-tige dans le nez à Roissy. Ils avaient pourtant pris leurs précautions.
On a contacté l'ambassade de France qui nous a dit non dimanche soir à minuit. Les tests PCR seront obligatoires, donc vous êtes couverts. Et même à l'aéroport d'Helsinki, ils nous ont dit que c'est bon, on n'avait pas passé les tests. Et on arrive ici et tout d'un coup, on est pris d'assaut par la police qui nous demande de passer des tests antigéniques.
Même si on avait voulu faire un test parce qu'on avait eu l'information comme quoi il fallait, on n'aurait sans doute pas eu le temps de le faire dans les délais.
Et ils ne sont pas les seuls, le temps de faire la queue. Pour certains, il y avait 30-40 personnes dans la file, disent-ils. Il faut ensuite attendre les résultats de ce test. Johan est donc ressorti de l'aéroport 1h30 après l'atterrissage. Il a dû changer son billet de train pour Montpellier et payer au passage un supplément de 100 euros.
Mathilde Dehimy avec Laurent Maketti. Et la France pourrait durcir encore un peu plus ce dispositif. Les vols avec les pays hors Union européenne et très à risque, comme le Brésil, pourraient être tout simplement suspendus. Ces tests obligatoires dans les aéroports, comme on vient de l'entendre, constituent une mesure de plus qui s'ajoute au couvre-feu, qui s'ajoute aux recommandations sur les masques, sur les gestes barrières, pour éviter un reconfinement. Et pourtant, ce troisième confinement, qui semble inévitable, une question de jours, croit savoir ce matin le journal du dimanche, à cause des souches variantes du coronavirus et le risque d'une épidémie hors de contrôle comme au Royaume-Uni. Deux ministres prennent la parole ce matin. Olivier Véran, dans Le Parisien, explique que si le couvre-feu ne fait pas baisser les contaminations, le gouvernement prendra des mesures supplémentaires et évidemment, dit-il, cela s'appelle le confinement. Jean-Michel Blanquer, dans le journal du dimanche, le ministre de l'Éducation nationale évoque également un confinement en expliquant qu'il souhaite que les écoles restent ouvertes. Enfin, l'Élysée précise ce matin qu'aucune allocution d'Emmanuel Macron n'est prévue à ce stade et qu'aucune décision n'a été prise sur un reconfinement. Mais cette épée de Damoclès du reconfinement inquiète déjà notamment les élus. C'est le cas à Saint-Denis, près de Paris, 115 000 habitants, près de 50% de logements sociaux et une population majoritairement jeune. Reportage Laurence Perron.
Allô, Jour ordinaire à Saint-Denis, le métro crache ses passagers, entassés ligne 13 sur la place de l'Hôtel de Ville, recouverte par les étals du Grand Marché. Dans son bureau à deux pas, le nouveau maire socialiste, Mathieu Hanotin, fronce les sourcils quand on lui parle de l'hypothèse d'un nouveau confinement.
C'est une chose de dire qu'on repartirait sur un confinement tel qu'on l'a connu à l'automne. C'en est une autre de repartir sur un reconfinement tel qu'on l'a connu au mois de mars. Je pense qu'on a été trop loin.
On est allé trop loin, notamment sur l'école, dit-il.
Tout faire pour ne pas fermer les écoles. La situation de détresse grandissante chez les jeunes, les situations d'inégalité scolaire, elles se massifient. Je suis en train de préparer un courrier là justement au ministre de l'Éducation nationale.
Ici, près de 50% de la population a moins de 30 ans et les tensions dues à une scolarisation en pointillé sont en train de monter.
On assiste à une multiplication des rixes extrêmement violentes entre jeunes, entre lycéens. Ce désœuvrement dont je parlais n'est pas complètement étranger à cette affaire.
Et puis, il y a la maltraitance qui a explosé lors du premier confinement. C'est la première adjointe qui a le dossier.
Elle est arrivée ?
Cathy Bontinck.
Les chiffres sur le recours au 119 ou au 3919 sont hallucinants. Et quand les professionnels sont confinés, tout ça est compliqué pour faire plus quand il y a plus de besoins.
Et puis, si l'on regarde la circulation du virus, Saint-Denis s'en sort très bien. Ne serait-il pas plus judicieux, plaident les élus, de penser à des reconfinements par territoire?
Reportage à Saint-Denis de Laurence Perron. Invité de ce journal, le professeur Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour professeur Lescure.
Bonjour.
Alors il y a un an, jour pour jour, vous receviez à l'hôpital Bichat l'un des deux premiers malades du coronavirus, les deux premiers cas déclarés officiellement en Europe et en France. Le second malade a été pris en charge au CHU de Bordeaux. Ce premier malade, professeur Lescure, dont vous vous occupez, est originaire de Chine. Que sait-on de l'épidémie qui arrive en France et à quoi êtes-vous confronté il y a un an ?
Ben, il y a un an, alors effectivement, c'était jour pour jour le vendredi 24 janvier. Et à Bichat, on a identifié deux patients, un jeune couple de Chinois qui venait en tourisme à Paris. Et on avait quelques informations. On était en vigilance depuis 15 jours. Et donc, en gros, on est passé de l'hypothèse du risque virtuel de l'émergence à une réalité qui, depuis, n'a pas cessé de se transformer et de révéler tout un tas de problématiques sanitaires et globales.
Alors,
je ne m'attendais pas, ce 24 janvier 2020, à une foudre pareille.
Ouais. Certains parlent à l'époque, certains parlent d'une grippette, d'autres prennent en revanche conscience de la gravité de ce virus qui, je le rappelle, a fait plus de 72 000 morts en France un an après. Qu'apprenez-vous les premiers jours et les premières semaines où vous êtes confronté à ce virus ?
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que on a eu quelques cas, et avec les collègues de Bordeaux, on a longtemps beaucoup réfléchi sur les 5 premiers cas. On avait eu les deux, le couple le 24 janvier, et puis une fille et son père dans la semaine qui a suivi, et avec ces 5 cas, de façon assez caricaturale, on a eu plusieurs messages très très rapides, très très rapidement. Le premier, c'est que il y avait des patients qui étaient très sévèrement atteints, notamment quand ils étaient fragiles, un patient de 80 ans. Les hommes d'une quarantaine d'années, les deux hommes avaient 40 ans, il y avait des formes intermédiaires, mais suffisamment graves pour nécessiter de l'oxygène et être à l'hôpital. Et puis les deux femmes sur ces 5 avaient des formes extrêmement peu symptomatiques, et dans la sévérité du patient âgé qui est allé en réanimation et qui en est décédé, on a très vite vu qu'on avait ce fameux orage cytokinique et cette pathologie qui était très disséminée par l'intermédiaire de la paroi des vaisseaux. Et en fait, très vite, on a eu plein de messages, avec 5 patients, on a eu plein de messages qui nous ont permis d'appréhender assez rapidement les tenant de la prise en charge des premiers malades.
Professeur Lescure, aujourd'hui, l'un des principaux progrès, je ne parle pas du vaccin bien sûr, mais l'un des principaux progrès concerne le traitement, la prise en charge des malades qui arrivent à l'hôpital.
Oui, alors on a fait beaucoup de progrès qui sont relativement limités, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a abaissé la mortalité du Covid, qui effectivement n'était pas une grippette ou une grippounette. On a une létalité qui est 3 à 4 fois plus importante, mais qui est pas extraordinaire et qui ne devrait pas, en théorie, entraîner le chaos systémique et global dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais sur le plan thérapeutique, avec un traitement anticoagulant préventif et un traitement par corticoïde, un traitement anti-inflammatoire, on arrive quand même à diminuer très significativement la mortalité. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le traitement antiviral efficace qu'on n'a toujours pas trouvé après un an.
Alors, professeur Lescure, à propos du nouveau confinement dont on parle, je voudrais que nous écoutions votre confrère Denis Malvy, membre du conseil scientifique et qui à Bordeaux, comme vous à Bichat, s'est occupé des premiers cas de malades de coronavirus en France. Ce matin, Denis Malvy parle d'un confinement nécessaire. On l'écoute.
Avec le niveau de circulation du virus, avec beaucoup de départements qui sont affectés, avec une crise qui est de type européen, on voit ce qui se passe. L'arrivée de ces variants a un peu assombri notre horizon en ce temps d'hiver et en tout cas je pense inévitable le fait qu'il faille consentir à 2 mois un peu difficiles dans lesquels il faudra encore sans doute se confiner en partie, par région, on ne sait pas encore, mais nous avançons vers un confinement.
Professeur Lescure, êtes-vous d'accord? Vous nous parliez de foudre, de chaos, on s'avance vers un confinement, il le faut?
Moi, c'est difficile, hein, parce que la situation est très complexe, mais en tant que soignant, et d'ailleurs je tiens vraiment à cette occasion-là, à cet anniversaire, entre guillemets, saluer l'altruisme et le dévouement dont on fait preuve, les aides-soignantes, les infirmières et les jeunes médecins qui ont beaucoup donné et qui ont été extrêmement résistants et résilients. Mais je ne veux pas non plus avoir une vision uniquement sanitaro-centrée. Et aujourd'hui, je crois qu'on a à faire des choix très difficiles. Mais je ne crois pas qu'il faille encore subir sur cette année 2021. Et le confinement, c'est une forme de soumission, entre guillemets, au virus. On doit, je crois, aujourd'hui, savoir vivre avec la Covid parce que ça va durer. Ça va pas durer 2 mois, ça va pas durer 6 mois, ça va durer probablement plus longtemps. Et les nouveaux variants sud-africains, anglais ou brésiliens nous montrent que on n'est pas sorti d'affaire. Je pense que au lieu d'un confinement qui nous rend passifs et qui nous déprime, et je pense que la Covid aujourd'hui a montré qu'elle avait certes une mortalité immédiate liée à maladies importantes, mais elle avait des conséquences collatérales majeures. Et je crains qu'on ait une épidémie silencieuse sur le plan économique, sur le plan psycho-affectif, sur le plan éducationnel et culturel extraordinaire, et ce lapsus de culture rêve est significatif, et je rêve qu'on puisse réouvrir les sites culturels, parce que d'abord c'est une nourriture affective, mais c'est aussi un pan de l'économie entière qui est à l'arrêt. On ne peut plus vivre sous cloche, et je pense qu'on a intérêt à faire soit des confinements sur des populations extrêmement à risque, soit à admettre qu'à 80 ans, tout ce qu'on vit après 80 ans, c'est du bonus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore s'autoriser ces bonus? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il faut prioriser les jeunes générations, les forces actives de la société, les PME. Et je pense qu'il faut qu'on fasse des choix qui sont difficiles, qu'on les partage et qu'on les verbalise ensemble. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une direction, une vision globale, du courage. Et je ne suis pas sûr qu'un confinement soit la solution.
Merci.
Il faut qu'on soit actif dans cette épidémie et je pense qu'il faut qu'on arrête de subir collectivement. C'est trop déprimant à l'échelle globale.
Merci beaucoup, professeur Xavier Lescure. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Merci à vous. Et je vous renvoie sur le site de France Inter, franceinter.fr, avec cet article, un an de pandémie mondiale en cinq chiffres sur franceinter.fr. Et puis cette information concernant les vaccins, Charles Michel, le président du Conseil européen, fait savoir ce matin que l'Europe utilisera tous les moyens juridiques possibles pour faire respecter les contrats de livraison des vaccins, alors que plusieurs laboratoires ont, vous le savez, annoncé des retards ces derniers jours. Au Portugal, un pays frappé par le variant anglais, on vote aujourd'hui pour la présidentielle. Le Portugal est le pays qui a enregistré cette semaine le plus grand nombre de cas de contamination au monde en proportion de sa population. 3 candidats, le président sortant Marcelo Rebelo de Sousa, favori, un candidat de l'extrême droite, André Ventura, et une socialiste, Ana Gomes. 3 candidats et une inconnue, le taux de participation au plus fort de l'épidémie, Marilyn Darcy.
La constitution portugaise ne permet pas de reporter une élection sous état d'urgence. Le scrutin maintenu, alors que le Portugal a reconfiné le 15 janvier, ne satisfait personne. La campagne électorale elle-même a été réduite au maximum. Difficile de faire entendre le message, alors que dans le régime semi-présidentiel portugais, beaucoup de choses se jouent sur la personnalité du candidat. Le vote maintenu, la commission électorale responsable du scrutin a multiplié les consignes. Les bureaux de vote doivent faire respecter les distances, distribuer du gel hydroalcoolique avant et après le vote, délimiter des circuits d'entrée et de sortie, fournir des masques aux distraits et chacun doit se munir d'un stylo pour choisir son candidat. Le confinement est assoupli ce dimanche, la liberté de circuler d'une municipalité à l'autre rétablie afin d'aller voter en région. Cela ne sera sans doute pas suffisant pour contrarier les prévisions d'abstention. Elle devrait se situer entre 60 et 75%. C'est inédit pour une présidentielle portugaise. Marilyn Darcy, Lisbonne, France Inter.
Et en Israël, loin des inquiétudes et des tensions concernant les délais de livraison de vaccins, le pays commence à vacciner les adolescents contre le coronavirus. Près de 30% de la population israélienne a déjà été vaccinée. Une nouvelle étape dans la campagne de vaccination alors que le pays connaît un troisième confinement depuis fin décembre, Alice Foussard.
Cela concerne toute personne entre 16 ans et 18 ans. Les adolescents concernés ont pu dès hier soir se rendre dans le centre de vaccination le plus proche de chez eux pour recevoir la première injection du vaccin accompagnée de leurs parents ou munis d'une autorisation parentale. Une initiative qui a été rendue possible rapidement par les caisses d'assurance maladie. Puis plus tard, les vaccinations se feront sur rendez-vous comme pour le reste de la population. Cette mesure a été approuvée par le ministère israélien de la Santé dès jeudi soir, notamment pour permettre la tenue du baccalauréat et faciliter le processus de recrutement militaire à la fin de l'année scolaire. L'éducation doit être notre priorité absolue, argumente Benny Gantz, ministre de la Défense. Une fois que nous nous sommes assurés que les enseignants ont été vaccinés, continue-t-il, nous devons aussi faire en sorte que les jeunes puissent assister à leurs examens et ainsi retrouver un cadre scolaire classique le plus tôt possible. Mais les personnes de plus de 50 ans et les patients ayant des antécédents médicaux restent toujours prioritaires. Tel Aviv, Alice Froussard, France Inter.
Et puis concernant la Russie, retour sur les manifestations d'hier en soutien à l'opposant Alexei Navalny, des manifestations réprimées par la police russe. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, invité à la mi-journée dans Questions politiques sur France Inter, s'est inquiété de cette répression en Russie.
Je trouve cette dérive autoritaire très inquiétante. Je trouve que la remise en cause de l'état de droit par ces arrestations-là, collectives et préventives, est insupportable. Je trouve aussi que le succès des manifestations au pluriel sur l'ensemble du territoire russe est impressionnant.
Demandez-vous la libération immédiate d'Alexei Navalny ?
On demande qu'il soit libéré et on demande qu'il ait la clarté sur sa tentative d'assassinat. Il y a eu une tentative d'assassinat. Dans un pays de droit, on essaie de savoir comment se fait-il qu'il y a eu une tentative d'assassinat.
Toute petite précision, est-ce que vous considérez qu'il a pris des risques démesurés en rentrant en Russie, ou est-ce que vous considérez qu'il a joué son rôle d'opposant au péril de sa vie ?
Je pense que cette démarche mérite beaucoup de respect. Il a l'audace de ses actes.
Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, invité ce matin de Questions politiques sur France Inter. Et comme annoncé hier par Emmanuel Macron dans une vidéo sur Twitter, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, commencera à recevoir demain les associations de protection de l'enfance. Le président de la République promettait hier aux victimes d'inceste qu'elles ne seront plus jamais seules et que leurs agresseurs n'auront plus aucun répit. La psychiatre Muriel Salmona, qui est la voix des victimes de l'inceste, se réjouit de la vidéo du président Muriel Salmona, qui d'ailleurs sera reçu mardi par le ministre de la Justice.
On a enfin été entendu. Maintenant, on va voir ce qui va nous être réellement proposé. Il faut vraiment que là, l'État, effectivement, remplisse ses obligations.
Qu'est-ce que vous allez lui dire à Éric Dupond-Moretti ?
On va lui transmettre toutes nos revendications. On va lui dire à quel point l'impunité de la pédocriminalité en France est intenable et intolérable. On va proposer les changements de loi que l'on réclame, particulièrement autour de l'abolition de la prescription et du seuil d'âge déjà, et puis de toute la réforme de la justice que ça nécessite pour que enfin la justice soit pas en échec total face aux plaintes de ses victimes pour qu'elles les traitent. C'est une impunité qu'on ne pouvait plus continuer à tolérer.
Muriel Salmona avec Victor Maté. Un mot de sport brièvement pour vous signaler, et c'était une performance et un exploit, la victoire de Sébastien Ogier au rallye de Monte-Carlo. C'est un record, il gagne son 8e rallye de Monte-Carlo. Sébastien Ogier, on en reparle ce soir dans le journal de 19h. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Du froid et de la neige, entre 3 et 5 cm prévus dans la moitié nord du pays. Une ambiance plus douce au sud avec de la pluie en plaine. La neige étant réservée au relief. La perturbation qui balaye le pays d'ouest en est a donné ce matin de la neige sur la Normandie. À la mi-journée, il va neiger du Berry à la région parisienne et sur les Hauts-de-France. Puis ce soir et la nuit prochaine sur les régions plus à l'est. Entre la fin de l'après-midi et la nuit prochaine, des averses de neige vont survoler la Normandie, ce qui viendra augmenter la couche déjà tombée. Dans la partie sud, la dite perturbation va donner essentiellement de la pluie en plaine, avec des précipitations plus marquées sur la Corse, tandis que sur les bords de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane vont maintenir un temps sec et partiellement dégagé. Et il va encore beaucoup neiger aujourd'hui en montagne, à très basse altitude sur le relief de l'Est, vers 500 mètres sur et autour du Massif central, et 1000 mètres vers les Pyrénées et la Corse.
Jean-Michel Golinski de Météo France.